Cascodeur Podcast, épisode 142. Interview Angular JS2 avec Cédric Exbraya. Enregistré le 29 janvier 2016. Bonjour et bienvenue dans un épisode spécial Angular JS 2 avec Cédric Exbraya. C'est comme ça que ça se prononce d'ailleurs ?
Ça se dit comme ça, tout à fait.
Ok, super. Déjà que je suis pas doué pour me rappeler les prénoms, alors... Angular JS, à part si vous êtes Antonio, vous en avez quand même dû en entendre parler. Et puis là, il y a la version 2 qui a tout cassé. Donc on va essayer de faire un petit point là-dessus, notamment sur la version 2. Et parce que notamment, tu as passé 2-3 petits jours à écrire un bouquin, c'est ça ?
C'est ça.
Dis-nous qui tu es, ta vie, ton œuvre, et puis après peut-être comment t'en es venu à ces technologies Webfront.
Ok, donc je m'appelle Cédric, je suis développeur Java à la base, j'ai d'ailleurs cofondé le Jive de Lyon il y a de ça 7 ou 8 ans, et puis je fais pas mal de JavaScript ces dernières années, j'y suis arrivé un peu comme tout le monde en commençant à faire du jQuery dans des petites applications web. Puis je m'occupe aussi d'une conférence qui s'appelle Mixit à Lyon, et sinon je travaille dans une société que j'ai cofondée avec quelques camarades il y a de ça 3 ans maintenant, une société qui s'appelle Ninja Squad. Et du coup, il y a de ça 2 ans maintenant, j'ai commencé à préparer une formation sur AngularJS, première version bien sûr, et à ce moment-là du coup j'ai écrit un support de cours un peu plus volumineux que d'habitude, mes collègues m'ont forcé du coup à le sortir sous format d'e-book. Je pensais en vendre, tu vois, une vingtaine ou une trentaine, une fois que mes amis et ma mère en auraient acheté, quoi. Et puis finalement, ma mère en a pas acheté. Mais on en a vendu un peu plus que ce qu'on avait prévu, puisqu'on en est à presque 1200, quelque chose comme ça, du premier.
D'accord.
Sachant qu'on le vend par nous-mêmes, et on le vendait à prix libre, avec un prix minimum de 2 euros, le premier.
Alors explique un peu ce concept, déjà, et puis après, pourquoi vous avez fait ça ?
Ouais. On voulait essayer de faire un bouquin qui soit accessible à tout le monde, aussi bien en termes de niveau pour le lire qu'en termes de prix. Et je rechignais aussi un peu à vendre quelque chose cher, parce que je sais que les bouquins techniques sont toujours un peu chers. Donc je voulais pas le donner complètement, parce qu'il y a toujours la notion de quand tu achètes quelque chose, des fois tu t'impliques un peu mieux, et je sais que ça marche bien dans les conférences, tout ça. Donc je voulais mettre un prix minimum. Et puis du coup, on voulait aussi essayer de faire un geste pour une association qu'on aime bien. Là. Donc on avait choisi une association qui s'appelle Docteur Souris. Et donc les gens pouvaient donner ce qu'ils voulaient à partir de 2 euros. Et puis ils pouvaient donner le pourcentage qu'ils voulaient à l'association. Et donc c'est une association qui aide les enfants qui sont à l'hôpital pour leur donner accès à des PC pour pouvoir faire leurs devoirs ou jouer, etc. Et donc on est parti sur ce principe-là en le vendant nous-mêmes, donc sans passer par une plateforme. Donc il est purement au format numérique, hein. On ne fait pas de papier. Mais on génère tous les formats qui sont nécessaires, PDF, EPUB, etc. Et puis du coup, on le vend par nous-mêmes et les gens peuvent venir sur le site et l'acheter.
Et le choix de ne pas passer par le papier, c'était parce que vous ne vouliez pas vous embarrasser d'un éditeur ou...
Ouais, c'est ça. Comme je te dis, à la base, tu ne te rends pas bien compte si c'est quelque chose qui va intéresser les gens ou pas. Donc c'était pas la peine de se lancer dans une grande aventure avec un éditeur, comme tu dis. Faut aussi savoir que quand tu vends un livre par un éditeur, Antonio par exemple le sait bien, on en avait discuté, la marge que tu fais sur le livre n'est pas du tout la même. Donc on préférait en vendre pas beaucoup, mais pouvoir gagner un peu plus d'argent et pouvoir en donner un peu plus à l'association qu'on voulait.
Ouais.
Et puis forcément sur des technos qui bougent beaucoup comme ça, tu te retrouves à faire beaucoup de mises à jour du bouquin. Là j'ai dû faire 4 ou 5 mises à jour du coup depuis la première version.
Ouais.
Qu'on envoie gratuitement aux gens qui l'ont acheté. Et forcément, ça, si tu fais du papier, c'est un peu compliqué. Ouais. Quoi.
Et quelle plateforme, du coup, vous utilisez ?
Donc, c'est un site qu'on a fait nous-mêmes. Et on utilise juste Stripe comme prestataire de paiement.
D'accord. OK. Bon, on va arrêter parce que c'est pas le sujet, mais idéalement, on reparlera un petit peu de comment tu as écrit cette nouvelle version du bouquin, si on a le temps. Voilà, alors Angular JS 2, qu'est-ce que c'est ?
Array, donc Angular, de façon générale, donc c'est un framework JavaScript qui est développé par Google, on va dire à 95%. Hein. Tu as des contributions de la communauté, mais c'est vraiment eux qui font le gros de l'effort principal. La première version a dû sortir il y a de ça presque 7 ans maintenant. Ça a mis un petit moment à exploser, mais c'est vrai que tu as plusieurs frameworks JS qui ont pas mal explosé ces dernières années. Et ça change pas mal la façon dont tu écris tes applications web, c'est-à-dire que il y a de ça quelques années, on générait tout côté back-end, on générait notre HTML. Et là maintenant, tu as vraiment une séparation nette entre ton back-end et ton front-end. C'est-à-dire que ton back-end il va exposer une API REST, donc tu vas avoir des objets JSON qui sont envoyés, qui sont reçus. Et puis ton front-end qui va vraiment être écrit du coup en Angular et en JavaScript et en HTML. Où tu vas donc recevoir ces données, et c'est là où tu vas gérer les actions d'utilisateur, le remplissage des formulaires, la validation, un peu de logique de navigation, et puis après tu envoies ces données au serveur par requête HTTP.
Et pourquoi tu crois que c'est mieux? Pourquoi est-ce que tu crois qu'une partie des applications sont parties vers ce mode où finalement la génération de l'HTML côté back-end a bougé vers le code côté front-end?
Ouais, c'est une bonne question. Ça vient principalement de maintenant, en fait, le web est devenu très interactif, quoi. Donc, tu t'attends à avoir pas mal de choses dynamiques dans ton application. Tu veux remplir des champs et que ça bouge automatiquement un peu partout dans l'écran. Du coup, tu as un petit peu moins de boilerplate si tu fais ça côté client. La gestion des formulaires est aussi un peu simplifiée parce que tu vas envoyer du JSON structuré à ton serveur plutôt que des paramètres string. Du coup, tu as toute cette partie validation des formulaires qui sont inclus dans les frameworks, tu as toute ta partie mise à jour automatique de l'écran dès que ton modèle change qui est géré pour toi, etc.
Mais tu valides quand même ta donnée derrière, parce que j'imagine que le gars qui va regarder ton appli AngularJS, il va pouvoir savoir quel truc reste il y a et d'essayer de
Exactement, exactement.
jouer
Donc,
avec ton appli.
vraiment, tout ce qui va être sécurité et le principal de la logique métier, ça va vraiment être côté serveur, hein, on est bien d'accord. Par contre, côté client, tu vas quand même avoir une première phase de validation de tes données facile, juste pour pouvoir dire que le champ est obligatoire, qu'il doit correspondre à tel format, etc. Et puis ensuite, tu vas avoir un tout petit peu de logique, mais plus en termes d'interaction utilisateur plutôt qu'en termes de logique métier.
Et donc, c'est quoi les cas d'utilisation où vraiment cette techno elle est utile intranet, site web public, c'est quoi un peu le domaine?
Je pense que tu peux faire à peu près n'importe quel site avec ce genre de techno. Il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas de cas où c'est pas recommandé de le faire ou alors où c'est vraiment pratique de l'utiliser. C'est peut-être Angular est peut-être particulièrement brillant pour faire des applications, j'allais dire un peu des applications de gestion où tu te retrouves à avoir pas mal d'écrans avec justement des formulaires, avec des données que tu veux faire bouger en fonction de ce que saisit l'utilisateur, etc. Mais ça peut très bien s'utiliser pour un intranet ou pour un site public sans trop de problèmes. La plupart des. Donc Angular en fait fonctionne un peu sous le principe de module. Je parle de façon générale, hein, dans la 1 et dans la 2. Où tu as du coup des modules qui te sont fournis pour les formulaires, les requêtes HTTP, pour gérer quelle page va s'afficher à quel endroit. Et puis après, si tu as besoin de quelque chose d'un peu plus spécifique pour ton application, si je ne sais pas si tu veux faire du drag and drop, si tu veux faire de la vidéo, etc. Bah, généralement, tu vas aller chercher des modules qui sont développés par la communauté, qui sont en open source. Je pense que d'assez loin, AngularJS a l'écosystème le plus mature et le plus complet des frameworks JS. Tu as vraiment une communauté incroyable. Il faut savoir qu'à la dernière conf Google, à la ng conf, l'équipe officielle disait qu'il y avait plusieurs centaines de milliers de développeurs qui faisaient du Angular, voire plusieurs millions. C'est vraiment quand même une grosse communauté. Donc tu trouves quasiment tout le temps le module qu'il te faut, qui existe déjà pour l'internationalisation, pour l'affichage des dates, etc. Tu trouves toujours quelque chose qui a été fait. Et puis Angular 2, lui, il prend le parti aussi de s'intégrer avec la nouvelle norme qui s'appelle les Web Components, donc qui est quelque chose d'un peu nouveau qui apparaît dans le navigateur et qui permet d'essayer de réaliser ce vieux rêve des développeurs d'avoir des composants disponibles sur étagère et qui marcheraient un peu partout. On n'en est pas encore là, mais du coup, tu peux imaginer que si dans ton application, tu as besoin d'afficher une map Google, par exemple, bah, tu as un web component Google Maps que tu peux directement mettre dans ton application, et il va être capable d'interagir avec ton application Angular, c'est-à-dire que tu pourras lui passer dynamiquement les valeurs pour que la carte se centre au bon endroit. Et puis si l'utilisateur bouge des choses, tu pourras recevoir des événements et les utiliser dans ton application pour réagir à ça.
D'accord. Petite question, parce que c'est un peu mon dada. Ces applis qui, en gros, génèrent le HTML côté client, qu'est-ce qui se passe quand Google il veut indexer?
Ah, c'est une très bonne question. Comme toutes ces applications dynamiques côté JS, c'est moins bien indexé que du HTML statique, d'accord? Après, évidemment, vu que la tendance du web est fortement dans ce sens-là d'avoir des frameworks JS, les moteurs d'indexation commencent à faire des efforts, notamment Angular 1, j'ai pas de retour d'expérience sur Angular 2, hein, c'est encore trop frais, mais sur Angular 1, tu as le moteur Google qui est capable maintenant de comprendre pas mal de choses, donc il est capable un peu de naviguer dans ton application et de repérer des pages dynamiques et les indexer. Mais du coup, c'est vrai que si tu as vraiment de forts besoins d'indexation comme ça, tu te retrouves à avoir des astuces comme essayer de faire du server-side rendering, c'est-à-dire de pouvoir générer dynamiquement ton application côté serveur, même si elle est en Angular, pour du coup la servir quand tu repères un moteur d'indexation qui vient chercher ta page.
D'accord, donc en fonction de l'agent, de user agent, tu vas rendre différemment en fait.
Sachant que
Ok.
bon, ça c'est vraiment si tu as des forts besoins d'indexation et que tu vas faire ça. Sinon, la plupart des applications que je connais s'embêtent pas tellement avec ça, puisque c'est pas forcément quelque chose dont tous mes clients ont besoin.
D'accord. Mais imaginons, regarde le site où vous avez vendu le livre. Donc tu as une partie, notamment toute la partie flow de paiement, une fois que tu as acheté, d'avoir les mises à jour, etc. Ça, on se fiche un peu de l'indexation. Par contre, la page d'arrivée qui explique le livre, pourquoi, l'association, tout ça, ça, tu veux que ça soit indexé. Donc là, vous avez fait, je sais pas si vous avez utilisé Angular en l'occurrence, mais
Non, pour le coup, non.
tu aurais fait comment? Tu aurais fait une page HTML statique pour ton arrivée qui va être indexée, puis après le Angular pour le reste?
Oui, c'est ça, tu pourrais faire quelque chose comme ça. Ou sinon, c'est vrai que je pense que si tu as vraiment besoin d'une forte indexation, ben, les pages qui sont réellement importantes, tu les fais en statique. Et tu vas déléguer Angular que les morceaux, comme tu disais, qui sont un peu plus dynamiques plus tard.
Du coup, ça résout quel problème Angular? C'est un peu un framework à la Java E où on a un peu tout ce qu'on veut si on en a besoin. Voilà, c'est là pour m'aider à quoi en gros?
Ouais, c'est ça, faut le voir comme un framework avec plusieurs petites briques qui sont là pour te simplifier la vie en tant que développeur. Quand tu vas développer une application comme ça côté client, il y a vraiment des tâches récurrentes que tu vas faire. C'est-à-dire que tu vas écrire des composants, on va dire, pour simplifier, où la logique va être en JavaScript. Tu vas avoir un petit template à côté qui est en HTML. Et Angular est là vraiment pour te simplifier la vie entre, du coup, pouvoir faire communiquer ta logique métier et ce qui va être affiché ensuite dans ton navigateur. Et donc automatiquement, il va détecter les changements qui ont lieu dans ton application et les appliquer dans le DOM. Et réciproquement, il va être capable de voir que l'utilisateur vient d'entrer quelque chose dans un champ et que ça modifie du coup l'état de ton modèle et modifie du coup ta logique, activer ta logique derrière en JS. Tu vas avoir du coup toute une. Après, tu as plein de modules qui sont plus ou moins optionnels, hein, que tu peux embarquer dans ton application. Typiquement, un formulaire, ben, tu veux savoir que l'utilisateur il a bien rentré au moins 3 caractères, que son login il est sous la forme d'un email, etc. Et donc, tout ça, tu as déjà tout qui est prévu pour pouvoir afficher quel champ est en erreur, etc. Tu peux soumettre ton formulaire que s'il est valide ou des choses comme ça. Tu as un module HTTP qui te permet de gérer la communication avec ton serveur backend, où du coup, tu vas pouvoir envoyer des requêtes facilement, être prévenu quand tu as une réponse qui arrive. Et du coup, l'application va se rafraîchir automatiquement quand on aura reçu des nouvelles données, etc. Donc c'est vraiment, ouais, c'est un framework assez complet où toutes les petites briques principales sont fournies et où tu as juste à piocher dedans et à les aligner pour construire ton application.
D'accord. Si je liste certaines briques, et tu me dis si c'est vrai ou faux, et puis après s'il m'en manque, un moteur de template,
Ouais.
ok, j'imagine un contrôleur MVC pour faire des routes ou des choses comme ça,
Voilà, c'est ça, tu as un module
ok.
de route et puis après tes composants eux-mêmes sont les contrôleurs de ton application.
Ouais, le fameux binding pour réagir si l'utilisateur fait un changement et de faire réagir l'application et vice-versa. du log, il y a des trucs comme ça?
Ouais, mais ça reste. En fait, oui, tu peux. Par défaut, ça va loguer dans la console tout bête du navigateur. Après, tu as un mécanisme de log qui te permet de faire des choses un petit peu plus avancées. Genre, tu peux collecter les erreurs pour les envoyer à un endpoint back-end pour les collecter et faire des analytics dessus, par exemple. La brique est pas. Enfin, tu peux te plugger dessus. Il n'y a pas de choses déjà pré-écrites pour toi, mais tu peux te plugger dessus.
Et voilà, est-ce que j'oublie des composants vraiment importants là dans ma liste? Parce qu'après, on a bien compris, il y a des modules, donc évidemment, tu peux faire plein de choses,
En
mais.
fait, dans les modules quand même fournis par la team Google, donc tu as la partie HTTP, tu as la partie form, tu as la partie animation, donc tu vas pouvoir facilement ajouter des animations dans ton application, genre, tu vois, ta liste, elle passe de 5 éléments à 2 éléments parce que tu l'as filtré, tu vas avoir une belle transition qui va s'effectuer, des choses comme ça.
D'accord.
Tu as aussi donc le module, tu as un module de routeur donc, qui te permet de générer des URL qui soient meaningful, qui aient vraiment un sens par rapport à la navigation de ton utilisateur, qui soit du coup possible à mettre en bookmark pour plus tard. Qu'est-ce que j'oublie? Tu as aussi si, un truc très important, c'est que tu as un module de test qui te permet d'assez facilement tester ton application.
D'accord.
C'est vraiment l'un des trucs qui m'a séduit le plus, je pense, dans AngularJS dès la première version, c'est que tu as pas mal de patterns qui parlent aux développeurs back-end, du genre tu vas faire de l'injection de dépendance, donc c'est-à-dire que ton composant il a peut-être besoin de ce qu'on appelle un service qui va lui se charger d'appeler ton serveur pour récupérer des données, et donc tu vas injecter ce service dans ton composant, d'accord? Ce qui fait qu'après, quand tu vas faire un test, comme quand tu es côté back-end, bah, tu vas pouvoir moquer ce service quand tu vas vouloir tester ton composant. Ce qui fait que du coup, tu vas pouvoir renvoyer des fausses données et pas réellement appeler ton back-end à chaque fois que tu veux tester ton petit composant. Tu vas vraiment lui renvoyer des fausses données et vérifier qu'il réagit bien avec ces fausses données-là.
D'accord. Et est-ce qu'ils fournissent des composants au sens, bah là c'est un composant date ou enfin est-ce qu'il y a une librairie minimale pour ça?
D'éléments graphiques un peu plus, tu veux dire?
Bah d'éléments ce que j'appellerais HTML quoi, ouais, enfin une
Ouais.
table, des trucs comme
Donc
ça.
ça, c'est pas fourni par le framework en lui-même. Par contre, comme on disait, t'as pas mal de choses fournies par la communauté. Donc il y en a un qui était très populaire, c'était un qui permettait de bosser avec Bootstrap. Donc qui, tu vois, tous les éléments qui sont fournis par Twitter Bootstrap, bah, du coup, étaient mis à la sauce Angular pour que ça puisse s'adapter facilement à ton application. Et puis là, il y a depuis un an ou deux, tu as la team Google qui bosse sur Angular Material Design, qui est donc du coup, tu sais, leur spec Material Design qu'ils utilisent un peu sur toutes leurs applications, aussi bien web que mobile. Et du coup, tu as les composants Material Design qui sont prêts à l'utilisation. Donc effectivement, tu peux faire un date picker qui soit au format Material Design et qui en plus soit capable d'interagir avec ton application Angular.
Et du coup, je reviens à ma question de il y a longtemps là. Je sais plus le contexte là, mais en tout cas, du coup, ce que je choisis, enfin, si moi je veux faire une application dite réactive, responsive ou pas, finalement, Angular, il a peu d'impact là-dessus puisque soit j'utilise une librairie qui de composants graphiques qui va m'aider à ça, soit ça va être plutôt mon CSS de toute façon avec parce que j'ai skinné en Bootstrap ou des choses comme ça, qui va me permettre de faire la notion de réactive.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que vraiment Angular, lui, il est là pour te faciliter le travail. Après, tu peux en tirer parti au point où tu as envie, mais par défaut, il va faire beaucoup de travail pour toi, ce qui fait que si tu utilises des librairies de composants comme ça, bah, ça va être par défaut, en fait, ça va être relativement réactif, c'est-à-dire que tu vas remplir un input d'un de tes formulaires, et ben tout de suite, ça va mettre à jour le reste de ta page qui est en train d'afficher ces informations-là.
Ok, cool. Ça c'était l'intro. Et alors, Angular 2, Angular 1, en pas longtemps, c'est quoi les grosses différences? Et puis visiblement la compatibilité ne sera pas ascendante. Et du coup, ça a créé pas mal de discussions. Mais d'abord, c'est quoi les grosses différences? Et qu'est-ce que je fais de mon application Angular 1?
Ouais, donc tu me dis de faire court, ce qui n'est pas facile, je vais essayer.
Non mais pas,
Non,
ok,
non,
vas-y.
y a pas de souci. Donc ouais, Angular 1, comme je te disais, ça a été écrit il y a 7 ans maintenant, et c'était probablement pas quelque chose qui était destiné à grossir autant, ils n'avaient pas prévu une adoption en dehors de Google déjà à la base. Donc il y a eu quelques, tu tu vois, il y a eu un peu des bouts de ficelle qui ont été rajoutés pour faire certaines choses. Le web a aussi pas mal évolué de façon générale, c'est-à-dire que on n'a plus du coup les mêmes envies qu'il y a de ça 5 ou 6 ans. Tu as les web components qui sont apparus, tu as JavaScript en lui-même qui a pas mal évolué, donc il y a moyen de tirer parti de nouvelles fonctionnalités dans les frameworks. Puis aussi, tu as le mobile, mine de rien, où maintenant tu as pas mal de gens qui vont développer leur application en utilisant des technos web pour ensuite les embarquer sur du mobile. Donc tout ça fait que l'équipe Google a voulu écrire une deuxième version, et effectivement avec un choix assez controversé de ne pas garantir la compatibilité entre la version 1 et la version 2. D'ailleurs, je pense que leur annonce a été assez catastrophique. Ils se sont pas bien rendus compte de l'impact qu'allait avoir ce genre d'annonce. Et depuis, ils ont pas mal ramé pour essayer de rétablir la com, quoi. Et notamment, donc au début, ils avaient annoncé que ça serait absolument pas compatible la 1 et la 2. Et maintenant, ils essayent de proposer un chemin de migration qui soit possible à suivre si tu as envie de passer ton application 1 à Angular 2.
D'accord.
Dans les faits, on est entre nous, hein, donc je te
Voilà.
dis. Dans les faits, c'est encore assez jeune ce chemin de migration, et je suis pas sûr que ça soit un, complètement faisable, et deux, complètement souhaitable. C'est-à-dire que si tu as une application Angular 1 qui marche bien, il n'y a pas tellement de raisons que tu aies envie de la réécrire en Angular 2 là demain, tu vas pas en tirer des bénéfices incroyables.
Ouais, après, c'est toujours le parce que effectivement les pour ces applications qui ont une durée de vie assez courte, etc., pas forcément, mais moi je pense plutôt quelques années dans le futur où le gars il va commencer à se dire ah, bah, mes questions Angular 1 elles sont plus trop répondues. Enfin, alors qu'est-ce que je fais avec mon framework? Est-ce que je réécris tout ou pas? Donc voilà, c'est.
Ouais, bien sûr, c'est toujours des questions qu'on a. De toute façon, voilà, c'est pas la première fois qu'on a un framework qui nous fait ça.
Ouais.
C'est toujours difficile d'y répondre, mais c'est vrai que si ton application est vraiment volumineuse, ambitieuse, bah, globalement, la migration va pas être simple, hein. C'est un truc où tu vas passer du temps et où tu pourras pas ajouter de nouvelles features en même temps. Ils ont prévu que tu puisses du coup migrer ton application petit bout par petit bout. Donc éventuellement, si tu as vraiment envie de faire cette migration, ça sera peut-être possible en disant, ben voilà, ce composant-là, imaginons le composant utilisateur, jusque-là il était en Angular 1, ben là tu migres en Angular 2, et par la magie de leur outil d'upgrade, là, tu peux le faire vivre du coup au milieu de ton application Angular 1, jusqu'à ce que tu aies migré tous les composants un par un et que tu puisses te débarrasser d'Angular
Qu'est-ce que t'appelles composant utilisateur là?
1. Je voulais dire en fait. Globalement, ton application Angular, tu l'écris sous forme de composant, c'est-à-dire que tu vas avoir, je sais pas, imagine t'es une application qui affiche des utilisateurs et leur fiche de paye, par exemple. Donc tu vas avoir, généralement, tu as un composant utilisateur qui va te permettre d'afficher l'avatar de ton user avec son nom, sa date de naissance, etc., que tu peux mettre n'importe où dans ta page HTML. Tu vas avoir peut-être un autre composant qui va représenter une fiche de paye et qui te permet d'afficher la ligne concernant tel mois avec tel salaire. Et donc tous ces petits composants, généralement tu les agrèges dans une page HTML, et c'est Angular qui se dit, ah bah tiens, là ça c'est le composant utilisateur, donc il faut que j'utilise tel template avec telle logique. Donc il t'affiche le HTML qui va bien et il met les bonnes données au bon endroit. Et donc ces composants-là, ils sont généralement assez autonomes, c'est-à-dire que tu pourrais très bien envisager que le composant qui affiche ton utilisateur, jusque-là il était en Angular 1. Bah, tu vas le modifier pour qu'il utilise Angular 2, et du coup, il pourra vivre au milieu d'une application qui sera en Angular 1.
D'accord. Et du coup, l'agrégateur de qui, enfin, en gros, littéralement, qui écrit le HTML, head, etc., body, il va être un peu assez compatible pour pouvoir appeler du Angular 1 et du Angular 2 et d'agréger.
Exactement, ouais.
Ok. En théorie.
En théorie, voilà, c'est ça, parce que je pense qu'en pratique, sur une application qui est vraiment volumineuse, c'est quand même un travail qui est non négligeable, et puis c'est quand
Ouais.
même. Enfin, tu vois, quand tu as une application qui marche bien, c'est toujours ambitieux d'essayer d'en changer des bouts en espérant que tout le reste continue à fonctionner parfaitement.
C'est microservices.
C'est ça. C'est ça, c'est ça.
Ok. Alors du coup, bon, les, alors, ouais, ils sont un peu vautrés parce qu'ils ont annoncé, je crois, leur première bêta ou un truc comme ça, en disant, voilà le code, ça fait des mois qu'on y bosse, ça sera pas compatible. Donc effectivement, au niveau communication, ils c'était pas les des experts. Bon.
Ouais, en fait, ils ont pas dit, tiens, voilà le code, ça sera pas compatible. Au moment où ils l'ont annoncé, il y avait quasiment que des documents de conception qui avaient
Ah
été
d'accord,
faits.
ok.
Mais déjà, ils avaient un proto de code, hein, mais vraiment, c'était pas grand-chose. Mais par contre, ils avaient déjà prévu que certains concepts qu'on avait dans Angular 1 et que les développeurs trouvent un peu compliqués, c'est-à-dire en Angular 1, t'as ce qu'on appelle des directives, sans rentrer trop dans le détail, c'est un truc qui te permet d'écrire justement des composants comme ça. Et l'API est quand même vraiment pas simple, enfin, je veux dire, quand tu rentres dans le framework, c'est quand même un peu compliqué. Il y a vraiment une courbe d'apprentissage pour arriver à en tirer profit. Et donc, il y a des choses comme ça qu'ils voulaient essayer de virer pour pouvoir repartir sur des bases un peu plus saines. Et puis
D'accord.
aussi, en Angular 1, il y avait, au fur et à mesure du temps, il y a eu des problèmes de performance qui sont apparus. Si tu voulais essayer d'afficher 2000 lignes dans un tableau, ce qui est probablement une mauvaise idée de toute façon en termes d'expérience utilisateur, mais...
Ah, le nombre de gens qui disent oui, mais je suis obligé.
Voilà, c'est ça. Et donc du coup, tu te retrouvais avec des ralentissements si tu savais pas trop utiliser le framework. Voilà, donc il fallait quand même
D'accord.
connaître des choses pour arriver à faire des choses performantes. Et donc là, en Angular 2, ils essayent de repartir sur des bonnes bases en tirant profit des nouveautés des navigateurs, des nouvelles normes comme les Web Components, comme les nouvelles forces de JavaScript. Et en plus, ils ont changé quelques patterns internes pour avoir des choses qui sont beaucoup plus performantes. Et donc depuis le début, si tu veux, à chaque fois qu'ils font un build, ils comparent, par exemple, ils ont une super table là, qui fait 2000 lignes, et ils comparent le temps d'exécution entre Angular 1, Angular 2 et des frameworks alternatifs comme React, par exemple. Et c'est ce qui leur permet de
D'accord.
dire qu'ils sont relativement confiants sur les performances d'Angular 2.
Deux questions. Enfin, j'en avais trois, mais j'en ai déjà perdu une pendant que tu parlais. Pour quelqu'un qui connaît Angular 1, c'est quoi les X points clés qui sont différents dans Angular 2 et qui l'encourageraient pour sa nouvelle application, à partir vers ça?
Je pense que si tu connais Angular 1, déjà passer à Angular 2, c'est pas forcément très différent. Tu vas retrouver pas mal de concepts similaires. Après, comme je disais, ça tire beaucoup profit des nouveautés de l'écosystème de façon générale. Et je pense que le plus compliqué, c'est peut-être de se mettre au nouveau JavaScript. Donc là, je fais une petite parenthèse, c'est-à-dire que le JavaScript qu'on écrit en ce moment et depuis quelques années, c'est l'implémentation de la norme qui s'appelle ECMAScript 5. D'accord? C'est une norme qui a dû sortir en 2009, si je ne dis pas de bêtises. Un truc comme ça. Et un peu comme Java, récemment, il y a eu une volonté d'accélération de cette norme, où du coup, tu as un comité qui se réunit, qui essaye d'ajouter des features au langage, et qui sort une nouvelle version de la spec. Et donc là, ils ont sorti une nouvelle version de la spec en 2015, dont le nom officiel est ECMAScript 2015, mais quasiment tout le monde dit ES6 parce que c'est la sixième version de la spec. Et notamment, ça a ajouté pas mal de choses comme maintenant tu as des classes en JavaScript. Tu as un système de modules qui existe dans le langage avec du coup des imports et des exports. Donc tu vas pouvoir écrire vraiment un module en disant je veux importer telle fonction de tel autre module et puis tu vas pouvoir le packager pour le redistribuer. Tu as pas mal de petites nouveautés, les promesses, les arrow functions en français, on dirait les fonctions flèches qui ressemblent un peu à ce qu'on a avec nos lambdas. En Java, tu vois, c'est un peu la même syntaxe. Donc voilà, tu as pas mal
D'accord.
de nouvelles choses. Et dès le début, quand ils ont écrit Angular 2, ils ont dit, on va tirer parti de ces nouveautés. Ils voulaient même tirer parti de nouveautés qui n'apparaîtront que dans la prochaine version de la spec, qui sera ES 2016, qui devrait donc sortir cette année. Et cette nouveauté-là, c'est ce qu'on appelle les décorateurs, et ça ressemble vraiment aux annotations qu'on a en Java. C'est-à-dire, tu mets arrobase quelque chose. Bah, tu écris un composant, tu vas écrire une classe, d'accord, pour faire ton composant, et tu vas mettre dessus arrobase component pour indiquer au framework que c'est un composant. Donc on se retrouve vraiment avec des philosophies qu'on connaît si on a fait un peu de dev backend avec des
Ouais.
annotations. Et donc dès le début, ils voulaient tirer profit de tout ça. Ils avaient même écrit un langage à eux. Ça fait partie des choses qui ont fait râler la communauté à la première annonce, c'est qu'ils étaient en train d'écrire Angular 2 avec un langage développé par Google, qui était un surensemble du coup de.
Ah,
De
c'était Dart, non?
il au début
Ah.
en fait il l'écrivait avec un truc qui s'appelle AtScript, AtScript,
Ah oui,
voilà,
OK.
et qui a été en fait après laissé tomber parce que en fait dans AtScript ça prenait ECMAScript 6 et ça rajoutait donc la notion de décorateur, ces fameuses annotations, et la notion de type, c'est-à-dire que tu écrivais du JavaScript typé où tu pouvais dire ma variable elle est de tel type, et ça servait à différents endroits dans le framework. Et puis en fait, vu que la communauté globale râlait un peu, puisque ça visait à apprendre encore un nouveau langage, un truc encore développé par Google, etc. Donc ils se sont rapprochés de l'équipe de TypeScript. TypeScript, qui est un langage qui est développé par Microsoft. Ce qui fait un peu bizarre parce que, bon, voilà, je pense que toi comme moi, on se rappelle de Microsoft il y a de 7-10 ans où tu t'attendrais pas à ce qu'ils fassent de l'open source et à faire des outils que tout le monde ait envie d'utiliser.
Ouais, enfin moi je me rappelle de Microsoft il y a plus de 10 ans, mais
Ouais.
déjà il y a 10 ans c'était reparti un peu vers le... Mais bref.
Et c'est vrai que, enfin, je pense que ils ont fait une belle action win-win, on va dire, parce que du coup, Angular se déchargeait de la responsabilité du langage en laissant à TypeScript implémenter les décorateurs qui leur manquaient dans le langage. Et du coup, ils ont migré tout le framework sur TypeScript. Et TypeScript, en échange, gagnait du coup toute la communauté qui allait se créer autour d'Angular 2, ce qui est probablement pas négligeable en termes d'impact.
D'accord. Et pour finir là-dessus, TypeScript, c'est vraiment un... C'est quoi? C'est ECMAScript 2016, un peu en avance, quoi?
Ouais, c'est ça. En fait,
Ok.
pour simplifier, on va dire que c'est un surensemble de ECMAScript 2015, dans lequel ils rajoutent les décorateurs qui vont probablement être dans ECMAScript 2016, et les types qui, eux, sont pas encore seront peut-être un jour mis dans la spec officielle, mais qui ne sont pas encore prévus, à ma connaissance, tout de suite.
D'accord. Et donc, quand j'écris du TypeScript, qu'est-ce qui se passe? J'ai aussi un morceau de JavaScript qui va interpréter le TypeScript en JavaScript.
Alors, du coup, de toute façon, si tu écris du ECMAScript 6 ou du TypeScript, vu que les navigateurs ne supportent pas encore entièrement la norme ECMAScript 6, puisqu'elle vient juste de sortir, donc tu as une adoption progressive par les navigateurs des différents morceaux de la norme, hein, c'est un peu comme les serveurs pour la norme JE, par exemple.
Ouais.
Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que nécessairement, dans ton projet, tu vas avoir ce qu'on appelle une phase de transpilation. Donc, c'est un peu comme une compilation, si ce n'est qu'en fait, tu vas prendre du code ECMAScript 6 et tu vas le convertir en code ECMAScript 5. Ou même chose avec TypeScript, en fait. Et donc, ça va générer du code JS qui va être compréhensible par tous les navigateurs. Donc, toi, en dev, tu vas écrire avec le langage qui te fait plaisir. Et ensuite, tu vas transpiler ton code au build. Tu vas avoir une étape de transpilation pour générer du code JavaScript qui est compréhensible par les navigateurs.
D'accord. Comment JavaScript, ça a du
Et
build?
ouais,
On en
ouais,
parlera
ouais.
après dans le cycle de travail. Du coup, Angular 2, il y a des navigateurs, il faut que j'oublie. Version, les anciennes versions.
Ouais, ils sont partis sur ce qu'ils appellent les Evergreen Browser, hein, donc c'est-à-dire, pour l'instant, ils visent vraiment les Chrome, Firefox, etc., etc. À la base, ils étaient même en train d'essayer d'oublier les anciennes versions d'IE, genre IE9, IE10. Et puis en fait, tu as des gens de la communauté qui ont intégré le support. Donc à ma connaissance, ça marche à partir d'IE9, je crois, Angular 2.
D'accord.
Voilà. Donc il faut savoir que Angular 2, c'est encore en bêta. Hein. Je crois que je ne sais même pas si on l'a dit, mais c'est sorti il y a maintenant un mois à peu près.
Ouais.
Donc en fait, on en est encore au tout début du framework.
Donc ton livre, il est en bêta aussi, en fait.
Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, c'est vrai que t'as des petites choses, genre on trouve des bugs sous Safari ou des choses comme ça, quoi. Mais
D'accord.
leur but, ce sera quand même de supporter tous les navigateurs récents, les navigateurs mobiles. Et
Ouais.
puis, du coup, vu que la communauté a l'air de s'en occuper, t'auras peut-être même un support sur les anciens navigateurs IE, quoi.
D'accord. J'ai une petite parenthèse, mais donc écrire un livre, c'est une expérience. Enfin, je sais pas si toi tu t'aimes bien, etc. Mais bon, c'est assez horrible quand même. Beaucoup de pression ou de pression mise par soi-même pour arriver à la deadline, etc. Enfin, beaucoup de procrastination. Donc là, se dire que j'ai fait un bouquin, je l'ai sorti, mais qu'en fait, je vais peut-être en réécrire 20% parce que le produit est pas fini et que je vais mettre à jour régulièrement, ça me déprime rien que pour te...
On est d'accord que c'est une expérience un peu particulière. En plus, voilà, je l'ai écrit pendant les versions alpha, quoi. C'est-à-dire il y a aucune doc, et donc je lisais les commits chaque matin pour comprendre ce qu'ils étaient en train de faire.
D'accord.
Et du coup, c'est vraiment comme ça, ligne de code par ligne de code, que j'ai compris comment ça fonctionnait et que j'ai écrit le bouquin. Et effectivement, j'en ai déjà réécrit à 50%, quoi. Mais je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais du coup, pour être sûr que mon livre soit correct, on va dire, quand il sort, tous les exemples de code que j'ai sont en fait dans un vrai projet à côté, avec des tests unitaires depuis le début, et j'ai, je sais plus, j'ai 300 ou 400 tests unitaires. Et donc chaque petit exemple de code est testé unitairement pour être sûr que l'exemple qui est embarqué dans le bouquin est fonctionnel. Et donc à chaque fois qu'ils font une nouvelle release, ben je change la version dans mon projet de test et je regarde si tout va bien toujours, etc.
D'accord.
Il n'y a que comme ça, je pense, que j'aurais pu m'en sortir, vu le nombre de changements qu'il y a eu tout au long du développement, quoi.
Bah surtout quand il n'y a pas de log ou des changelog un peu abscons.
Il y en a, mais bon, c'est vrai que vu qu'ils avaient annoncé, hein, je veux dire, moi j'ai suivi le développement quasiment depuis le commit numéro 1, donc forcément il y a eu des changements, des breaking changes un peu toutes les 2 semaines, quoi. Donc,
Ouais.
si j'avais pas eu un système comme ça, je m'en serais juste pas sorti. Mais ça m'a quand même pris beaucoup beaucoup de temps, quoi.
Et sinon, point rapide, les modules, donc cet énorme repository de la communauté, il va pas forcément bien marcher avec Angular 2, quoi.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Bah, je veux dire que visiblement, il y a plein de modules que tu peux intégrer dans ton application Angular. Ils vont pas forcément marcher de la version 1 à la version 2 sans que quelqu'un fasse du travail.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que vu que les concepts sont similaires mais quand même pas compatibles, bah, du coup, il y a un travail de la communauté nécessaire pour passer tout l'écosystème compatible avec la version 2. Et c'est effectivement, je pense, l'un des freins pour l'instant à essayer de partir directement en Angular 2. C'est-à-dire que maintenant le framework commence à être relativement stable, donc tu arriverais à faire une application sans trop de problèmes. Mais bon, bah, par exemple, tu veux faire de l'internationalisation de ton application. Il y avait un module phare en Angular 1, il n'est pas encore terminé en Angular 2, l'équivalent. Voilà. Donc tu as pas mal de
D'accord.
petites choses comme ça où effectivement, tant que bah, la communauté aura pas terminé le travail de migration, ça sera pas facile.
Ok. Alors, on va parler un petit peu de la compétition. On est le 29 janvier 2016 à 10h17, vu que ça bouge beaucoup, on va prévenir. En ce moment, c'est React.js qui a pas mal le vent en poupe. J'ai lu un blog sur les différences et quand on parlera en pratique d'Angular, je pense que ça se verra un peu. Mais du coup, est-ce que tu peux expliquer un petit peu les grosses différences là-dessus, et pourquoi toi, par exemple, tu préfères AngularJS, si c'est le cas d'ailleurs.
Ouais, pas de problème. Donc React, c'est probablement l'autre framework qui a, comme tu dis, le plus le vent en poupe en ce moment. Il faut savoir que c'est pas le seul, hein. C'est vraiment un écosystème assez incroyable. Donc tu as aussi Ember.js et tu as des nouvelles choses comme Aurelia ou des choses comme ça. Et donc React, en fait, React, c'est une excellente solution qui est venue des équipes de Facebook. Qui se focalise par contre réellement sur une tâche, c'est-à-dire que c'est vraiment juste pour gérer ta vue, quoi. C'est-à-dire que tu fais ton composant et lui il se charge de mettre à jour ton template, avec un principe de DOM virtuel, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc en fait c'est difficilement comparable avec Angular comme ça, parce que React est plus, en fait, pour simplifier, c'est plus une librairie et Angular c'est plus un framework, quoi. Donc si tu veux faire la même chose que ce que tu ferais pour une application complète en Angular, il va falloir que tu me rajoutes d'autres librairies à React pour arriver au même résultat. Donc en fait, les deux solutions ont leurs avantages, hein, c'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir une stack complète, mais bon, voilà, tu es dedans et tu peux pas réellement en sortir. D'un autre côté, tu as une stack qu'il va falloir que tu assembles toi-même en faisant les bons choix, mais bon, par contre, tu as complètement la main dessus. Donc tu vois déjà, ces approches-là sont un petit peu différentes. Après, tu as aussi pas mal de concepts similaires entre les deux outils, notamment entre Angular 2 et React, où en fait, clairement, l'équipe Angular 2 s'est inspirée de toutes les bonnes idées qu'il y avait dans React. Donc tu as quand même une approche un peu plus similaire que probablement la plupart des gens pensent, parce qu'Angular 2 n'est pas encore assez connu, mais donc tu as quand même des approches qui sont relativement similaires. Et puis, il y avait des features qui étaient très appréciées dans React, qu'ils ont du coup intégré dans Angular 2, typiquement le server-side rendering dont on parlait au début de l'épisode, où tu vas pouvoir rendre ton application côté serveur. Il y a aussi ta React native qui existe.
Tiens, juste server-side rendering, ça veut dire que du côté serveur, on fait tourner un moteur JavaScript pour faire ce que fait Angular côté client, puis après on balance, c'est ça?
Exactement, ouais. Donc c'est
Ok.
typiquement ce que tu ferais tourner dans du Node.js pour rendre ton application. Donc
Mais
voilà.
si mon backend c'est du Java, je vais pouvoir m'en sortir ou faut que j'ai un backend Node.js pour ça?
Ouais, on en discutait justement je sais que sur le support Angular 2, là dans les issues, il y a des gens qui essayent de regarder si ça marcherait avec le moteur de la JVM.
La chambre,
Ouais.
ouais.
Mais du coup, ouais, je sais pas à quel point tu pourrais t'en sortir sans monter un node à côté si tu voulais faire ça, quoi.
D'accord.
Donc voilà, ouais, il y a pas mal d'inspirations communes. Donc je disais, ouais, React Native, qui est un projet qui avait pas mal fait parler de lui. C'est tu écris en React une application qui va être ensuite générée, une application native mobile qui va être générée pour toi. Et du coup, pareil, tu as l'équipe Google qui est en train de bosser là-dessus pour la version Angular 2, pour faire la même chose, quoi. Donc il y a quand même pas
D'accord.
mal de concepts qui vont être partagés. Et puis je pense que ben, React, c'est aussi pas mal lié à une nouvelle façon de développer les applications qui s'appelle Flux, qui est
Ouais.
pas tellement, en fait, c'est pas une librairie, c'est plus un pattern qui te permet de concevoir ton application.
Alors explique ce que c'est parce que j'ai...
Ouais, je suis loin d'être un expert parce que j'ai pas fait de grosses applications avec, tu vois, j'ai juste fait des to-do list, donc c'est jamais très représentatif, mais.
Ça m'énervait. Alors moi, j'utilisais plutôt Backbone, mais c'est toujours ça. Alors
Et ouais.
la to-do list, là, tu gères, hein, on peut faire tout ce qu'on veut. Dès que tu sors un peu de la to-do list, c'est là où tu rames, parce
On est
que
bien
la
d'accord.
fonctionnalité, elle est pas là, où tu comprends pas, c'est horrible.
On est bien d'accord. Et ouais, du coup, en React, c'est vrai que donc l'équipe Facebook avait aussi, en même temps que React, fait émerger un pattern. En fait, pour moi, ça se rapproche pas mal de CQRS, quoi. C'est-à-dire, bah, je suis expert ni de l'un ni de l'autre, donc ça se trouve, je fais des grosses simplifications, mais voilà, c'est essayer de faire en sorte que ton application, elle génère des événements, et puis tu vas avoir d'autres parties de l'application qui vont réagir, mettre à jour l'état et impacter ce qu'il faut là où il faut, quoi. Et en fait, ce pattern-là, il n'est pas tellement lié à React en lui-même, puisqu'en fait, tu vois apparaître pas mal de démos avec d'autres frameworks, et notamment avec Angular 2, tu as déjà beaucoup de démos qui permettent de faire des architectures à la Flux, quoi, on va dire.
Mais c'est plus que genre l'événement où t'as un composant qui envoie un événement qui est écouté par X pour faire d'autres choses.
Ouais, c'est ça. En fait, ça dépend. Voilà, on parle du monde JavaScript, hein, donc tu as une implémentation à la mode tous les 2 mois, quoi, à peu près.
Ouais.
Mais celle qui est assez populaire en ce moment, là, qui s'appelle Redux, qui est développée par quelqu'un qui maintenant travaille chez Facebook aussi, bah, c'est typiquement, voilà, tu viens de faire une action dans ton interface, elle va émettre un événement adéquat, et derrière, tu vas avoir un morceau de ton application qui s'appelle un store, qui va du coup recevoir ça, et qui va réagir en fonction de l'événement pour mettre à jour ton modèle, et ensuite, derrière, ça va impacter le DOM avec le résultat, quoi.
D'accord.
Voilà. Bon, je simplifie un peu
Oui,
grossièrement,
oui.
hein, mais c'est.
Ok. Et juste une petite parenthèse, parce que là, on parle de ce que tu appelles, toi, des composants qui peuvent ressembler à des modules dans JWT. JWT, toi, tu as fait un peu dans le passé, et qu'est-ce qui fait que tu préférerais un Angular, ou, enfin, les approches existantes, là?
Ouais, j'en ai fait pas mal, en fait, même si j'ai un peu oublié. En fait, JWT, donc t'écrivais en Java et ça générait du JS. Ce qui, à la base, pouvait sembler être une bonne idée. Et puis, en fait, tu te retrouvais, enfin, je me rappelle de beaucoup de moments où, en fait, t'avais juste pas la main sur le DOM et que t'avais envie de juste faire un petit truc et que c'était l'enfer à faire avec l'API Java, alors que tu savais qu'en JS, t'aurais mis 3 secondes à faire ça. Donc, la couche d'abstraction était peut-être un peu haute en JWT. Puis, t'avais tout un système de génération en JWT, je sais pas si t'en avais fait.
Ouais, un petit peu.
Où du coup, tu avais toutes les permutations langue navigateur qui devaient être générées. Donc, sur une grosse application, bah, tu te retrouvais avec des temps de build de 25 minutes sur des grosses applis, quoi, ce qui était assez infernal. Là, on parle d'un mode de développement où tu modifies ton code et globalement, tu rafraîchis ton navigateur et c'est fait, quoi. Et
D'accord.
ça reste quand même du JS, donc c'est le langage du navigateur, ce qui fait que tu as quand même la main pour faire à peu près ce que tu veux sur une DOM quand tu en as envie, quoi.
Ok, ça marche. Bon, on va zoomer un peu sur le comment on travaille en pratique. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le cycle de code d'une personne qui écrit une application AngularJS 2?
Ouais, alors AngularJS 2, bah, typiquement tu vas écrire un composant dans un fichier, ton fichier JS, alors probablement peut-être plutôt en TypeScript ou en ECMAScript 6, hein,
Ouais.
ce qui fait que du coup tu vas avoir une étape de transpilation comme on disait tout à l'heure, donc tu vas avoir soit le compilateur TypeScript qui va te générer le JS, soit si tu fais de l'ECMAScript 6, tu vas utiliser un projet comme Babel par exemple, qui va te générer le code ECMAScript 5. Donc généralement tu es en train de taper dans ton éditeur ton code et en tâche de fond tu as un truc qui surveille tes fichiers, et dès qu'il voit une modification, il le transpile pour le mettre dans un répertoire qui est servi à ton application, ce qui fait que tu rafraîchis ton navigateur et tu vois les changements. C'est très rapide en général. On ne parle pas de temps de compilation de plusieurs minutes, hein, c'est des choses qui prennent. Bon, après, on a des bonnes machines, mais c'est vrai que ça prend au pire quelques secondes sur des gros projets.
D'accord. Et du coup, donc, il te faut un système de build JavaScript. Je sais pas si toi, juste pour lancer un nom, pour que les gens s'appuient, tu utilises quoi en général?
Ouais, c'est ça. Ben, en fait, généralement, t'as plusieurs choses à gérer dans ton application. Tu vas avoir des dépendances, puisque du coup, tu vas utiliser des modules externes. Et donc, l'écosystème de modules de JavaScript est assez fou, aussi bien dans le sens positif que négatif. C'est-à-dire que c'est probablement je crois que c'est l'écosystème où il y a le plus de modules, tout langage confondu. Et donc, généralement, tu les télécharges avec quelque chose qui s'appelle NPM. C'est Node Package Manager, enfin, en gros. Qui est un outil un peu cinglé, on se foutait de la gueule des développeurs Java avec Maven il y a quelques années, mais je peux te dire que maintenant plus personne se moque de nous, parce que quand tu fais un téléchargement NPM, t'en as pour quelques centaines de mégas et plusieurs minutes de téléchargement, c'est un truc de fou. Donc tu vas avoir déjà généralement cette partie résolution de dépendance qui va être gérée par NPM, tu vas avoir une partie donc transpilation généralement. Pour convertir tes fichiers, comme on disait. Et puis après, tu vas souvent avoir d'autres petites tâches, genre ben, quand tu vas vouloir packager ton application, tu vas vouloir la minifier, tu vas vouloir concaténer les fichiers ensemble, peut-être faire du pré-processing CSS ou des choses comme ça. Donc toutes ces tâches, elles sont généralement orchestrées par autre chose. Et moi, j'utilise pas mal Gulp, qui est un outil de build. Donc, qui fonctionne par plugin, c'est-à-dire que du coup, tu dis j'ai besoin du plugin qui me permet de faire ma transpilation TypeScript, tu l'inclus dans ton fichier de build, et puis tu lui dis bah, je veux que tu me prennes ce répertoire et tu me le transpiles et tu me le mets dans ce répertoire-là. Et donc, tu vas chaîner les tâches comme ça pour du coup générer ton application complète.
D'accord. Et tu disais, je rends l'application, enfin, je fais un rendering de l'application. C'est un petit serveur web, par exemple lancé par Gulp, qui va te permettre de regarder si ça s'est bien passé, de jouer avec ton appli, c'est ça?
Exactement, ouais. Donc, soit tu le lances avec un outil en ligne de commande, genre un HTTP serveur ou un Python serveur, quelque chose comme ça. Soit carrément, tu as une tâche Gulp qui va le faire pour toi. Et donc, elle surveille automatiquement les fichiers, elle les rafraîchit dans le bon répertoire et elle le sert en permanence sur le localhost où tu vas pouvoir du coup tester ton appli. Du coup, c'est
D'accord.
vrai que tu as un cycle de développement qui est très très rapide.
Ouais.
Tu es très loin du temps où il fallait que tu redéploies ton appli. Carrément rebuilder le loir, le redéployer pour essayer de voir quelque chose, quoi. Là, t'es vraiment, t'es à 2 secondes entre ta modification et le moment où tu la vois dans le navigateur.
D'accord. Et en général, tu fais quoi? Le back-end, il est pas là et tu moques ou t'as un back-end qui tourne
C'est une bonne question. Tu peux, en fait, généralement, moi, dans les applis que je fais, comme chez Ninja Squad, on est quasiment tous développeurs Java et JS, donc généralement, si tu as besoin d'une API, tu es en train de la développer en même temps, donc on a le backend qui tourne. Tu vois, typiquement, tu fais du Spring Boot où tu vas avoir ton serveur qui est démarré, qui expose ton API REST, et puis du coup, tu joues avec ton appli en même temps. Mais tu pourrais très bien imaginer, c'est un des trucs qui est vachement bien avec Angular, c'est que. Si tu utilises le module HTTP fourni par le framework, tu peux, pour les tests, lui remplacer en fait la partie HTTP avec du faux HTTP, où en fait il fait pas vraiment de requête et il va renvoyer des données que tu as mis en dur quelque part. Et donc tu peux utiliser ça pour faire tes tests, et tu pourrais aussi l'utiliser quand tu fais du développement pour si tu as une API qui n'est pas terminée, par exemple, la moquer, quoi.
Ouais, ça a l'air bien.
Ouais,
Ça a
c'est
l'air
assez
bien.
pratique. Notamment pour les tests, en fait, du coup, ça va très vite parce que quand tu fais tes tests unitaires, il n'y a jamais de vrai appel HTTP qui part, c'est vraiment que des données statiques qui sont envoyées. Et puis, tu peux aussi, tu as 2 niveaux de tests en fait en Angular, tu as le niveau test unitaire où vraiment tu fais un test juste de ton composant, et puis tu as ce qu'ils appellent des tests end-to-end, donc c'est-à-dire ça va vraiment démarrer ton application complète, et c'est un peu à la Selenium, après ça pilote le navigateur pour faire des interactions avec l'application. Si ce n'est que c'est intégré avec Angular, donc il sait exactement quand les actions asynchrones sont terminées, t'as pas besoin de mettre des waits, un peu comme on faisait en Selenium, pour dire bah, attends, j'ai cliqué là-dessus, il faut attendre 2 secondes que le truc soit apparu. Là, en fait, ça se fait tout seul. Et tu peux donc décrire un scénario fonctionnel que l'utilisateur remplit son formulaire, il clique là-dessus et tu t'attends à ce qu'il ait navigué sur telle page. Et là, typiquement aussi, tu vas utiliser du coup un faux backend HTTP pour renvoyer des données.
Ouais, d'accord. Et à un moment, tu vas le plugger pour voir que ton appli, il faut mettre des petites animations d'attente parce que finalement, le backend, il est assez loin ou des choses comme ça. Il n'y a pas une petite trappe dans cette approche-là où tu dis, ah bah je moque, c'est hyper rapide. Et puis après, tu dis, ah bah non, en fait, charger la liste, ça prend un certain temps.
Ouais, je pense que ouais, c'est peut-être quelque chose qui vient avec l'expérience, mais disons que tu te doutes bien que quand tu fais une requête HTTP, tu n'auras pas le truc qui revient instantanément, des choses comme ça. Donc,
Ah, des
ça me...
fois, je
Ah
me demande. Mais oui, ok.
ouais.
Et toi, tu t'es plutôt TypeScript du coup ou plutôt ECMAScript 6?
Presque à ma grande surprise, je suis plutôt TypeScript. Je m'y suis vraiment mis, tu vois, pour le bouquin, pour essayer de voir... ce que ça allait donner, mais dans ma tête, je pensais vraiment plutôt faire du ECMAScript 6, qui est du coup la spec officielle, donc je me disais autant pas s'éloigner de ça. Et en fait, le typage qui est amené par TypeScript est vraiment pas gênant, et je le trouve plutôt bien foutu. Donc ça dépend, tu peux le rendre plus ou moins invasif, c'est-à-dire que tu peux demander au compilateur d'être assez sévère et de te crier dessus à chaque fois que tu as oublié un typage. Mais en fait, ton application marche très bien, même si tu mets pas les types, il a une inférence de type assez bonne. Et en fait, c'est relativement pratique et ça te permet de choper pas mal d'erreurs. Bon, bah, voilà, c'est toujours langage statique, enfin, langage fortement typé ou faiblement typé. T'as toujours le pour et le contre, mais je trouve que
Ouais.
ça se marie assez bien en fait avec le développement et le support des outils est aussi pas mal. Donc, genre, IntelliJ commence à avoir un support TypeScript assez intéressant. Donc, tu commences à. Voilà, tu utilises une de tes fonctions, il est capable de te dire quels sont les paramètres qui sont attendus, de quel type ils doivent être, etc. Il va te choper des erreurs du coup à la compilation et non, t'as plus besoin d'attendre le runtime pour voir que tu t'es trompé sur tel paramètre ou des choses comme ça.
D'accord.
Donc ça, je trouve que ça se marie assez bien finalement. Et puis Angular 2 tire vraiment profit des types pour la partie injection de dépendance. Donc sans rentrer dans les détails, ben, en fait, si tu dis que ton composant il a besoin d'un service user service, par exemple, pour récupérer tes utilisateurs, il suffit dans le constructeur de mettre un paramètre du bon type, et le framework va pour toi du coup aller instancier ce service-là et te l'injecter dans le composant, quoi. Donc ça tire quand même pas mal profit de ce système de typage.
D'accord. Au niveau template HTML, ça se passe comment en fait? Il y a des templates, enfin un moteur de template connu ou...
Non, il est pas connu dans le sens où c'est pas quelque chose qui est partagé avec d'autres frameworks. Donc tu écris ton HTML dans un fichier HTML normal et tu vas lui rajouter des mots-clés par endroit pour indiquer qu'il doit interagir avec ta logique applicative.
C'est à la JSP, quoi.
Voilà, c'est ça. Tu vas du coup dire bah là cet élément-là, je veux qu'il soit répété. Par rapport à cette collection-là, je veux que quand l'utilisateur clique à cet endroit-là, ça appelle telle fonction, des choses comme ça.
D'accord. Et ça va, c'est pas trop le bordel, parce que c'était un peu toujours le risque de l'approche JSP, c'était bon, bah, j'ai mon HTML, et puis là, je mets des opérations logiques de répétition de if et de machin, puis à la fin finalement on mettait, enfin c'était assez facile de dévier et de mettre beaucoup de code là-dedans plutôt que dans des composants qui sont appelés, qui étaient un peu plus typés, en l'occurrence Java, dans cet univers-là.
C'est vrai, je pense que tu as un peu le même phénomène. Il faut faire attention. C'est quelque chose qui vient un peu avec l'expérience du framework. Au début, tu as tendance peut-être à être un peu extrême dans un sens ou dans l'autre. Puis après, petit à petit, tu trouves un peu le juste milieu là-dessus. Ce que je trouve mieux dans Angular 2, c'est que ces templates, maintenant, ils sont parsés avec un moteur qui est fait dans Angular. Et donc du coup, il va te choper des erreurs un peu plus facilement que ce qu'on avait en Angular 1. Typiquement,
D'accord.
tu faisais une typo sur un nom de variable dans Angular 1, ça échouait silencieusement et ça te mettait une chaîne vide au lieu de te loguer une erreur quelque part. J'avais d'ailleurs fait une pull request auprès du projet pour qu'on ait au moins un warning. Et à l'époque, il l'avait refusé en me disant de toute façon, dans Angular 2, ça ne fonctionnera pas comme ça et on va réparer ça. Et effectivement, en Angular 2, tu as quand même des erreurs qui sont plus facilement attrapées. Donc, quand tu vas, t'as quand même des choses que tu verras qu'au runtime, mais tu en as certaines que tu vas voir au moment de la compilation. Et puis, au runtime, t'as quand même il est capable de te dire, tiens, là, tu es en train d'utiliser ce composant-là, mais tu me l'as jamais dit, du coup, est-ce que c'est normal, etc.
D'accord. Apparemment, dans React.js, c'est un truc qui est vraiment différent où ils ont un template qui est, en fait, c'est pas du HTML dans lequel tu mets des bouts de code JavaScript ou TypeScript, c'est l'inverse, c'est du JavaScript dans lequel tu mets du HTML et visiblement les erreurs, elles peuvent être détectées à la compilation beaucoup plus et puis même pointées vers la ligne précise plutôt qu'une page blanche ou comme tu disais, la chaîne de caractères vide sans que tu le vois nécessairement.
Ouais, c'est ça. Donc le moteur de template en React, il s'appelle JSX, et effectivement, il fonctionne comme tu l'as dit. Mais voilà, donc en Angular 2, ils se sont quand même pas mal inspirés de ça, donc t'as un peu des similarités entre les deux fonctionnements maintenant.
D'accord. Justement parce qu'ils ont écrit le moteur de template et qu'ils ont
Ouais, c'est
ils
ça.
peuvent contrôler un peu plus, quoi.
Exactement. En Angular 1, en fait, il déléguait le parsing du template au navigateur. Et du coup, il le rendait très flexible parce que il voulait pas que ça pète si tu avais des problèmes. Et en Angular 2, par contre, t'as vraiment ils ont écrit le parseur eux-mêmes. Donc du coup, t'as une sécurité supplémentaire. Il essaye de voir si ce que tu as écrit s'est bien formé. Et puis, imagine que tu aies utilisé un composant pour faire du drag and drop à l'intérieur. S'il se rend compte que tu as oublié de le déclarer, il va te dire, bah tiens, je connais pas ce truc-là, c'est bizarre. Pourquoi tu m'as mis ce
D'accord.
mot-clé drag and drop à cet endroit-là, quoi.
D'accord. Cool. Avec des numéros de ligne.
C'est une bonne question. Ouais, je crois que oui, si, je crois qu'il te le donne. Oui, il me semble. Je suis pas sûr, là, de tête.
D'accord. Parce que moi, les expériences, ouais, c'est. Bah, JSF aussi, d'ailleurs, c'est des fois, tu t'avais pas le bon truc, et puis t'avais la page blanche qui était générée, et là, c'était bon, là, j'en ai pour 2 heures, ça va ramer, quoi.
Ouais, enfin, bon, voilà, comme je te disais, en Angular 2, je trouve que ça s'améliore un peu là-dessus. C'est-à-dire qu'en Angular 1, des fois, tu mettais longtemps à localiser ton erreur. Là maintenant, tu as quand même une stack trace dans le navigateur. Il va te dire, tiens, je viens d'essayer de charger le composant utilisateur, par exemple, de tout à l'heure. Et ben, y a un truc qui se passe pas bien. Et donc, généralement, ton composant, il va avoir 10 lignes de template. Tu vas avoir quel est le mot-clé qui a pété. Donc, tu vas te dire, bah, tiens, oui, effectivement, drag and drop, je l'ai mal écrit. C'est normal
D'accord,
qu'il le voit pas.
d'accord. Rapidement, je sais pas s'il y a besoin de nécessairement trop en parler, mais donc binder les propriétés. Donc tu disais dans le HTML, je vais pointer vers un composant, voir des propriétés du composant. Et ça va me. J'imagine quand je mets à jour dans le formulaire, ça va le pousser et puis me notifier. Enfin, tu peux expliquer un petit peu comment
Ouais,
ça marche?
y a exactement le framework fait pas mal de travail pour toi. Donc le fonctionnement est un peu différent en Angular 1 et en Angular 2, d'où les gains de performance qu'ils ont. Je vais essayer de pas rentrer trop dans le détail profond, mais en Angular 2, ils utilisent un nouveau concept qui s'appelle les zones. Et en fait, ils font tourner une zone, en fait, c'est un espèce de contexte d'exécution. Et donc, ils font tourner le framework, enfin, ton application à l'intérieur d'une zone, ce qui fait que le framework est rappelé à chaque fois qu'une action asynchrone est terminée. Donc, et c'est fait pour toi, tu n'as besoin de rien faire. Donc, imagine que tu as une requête HTTP qui vient de se terminer. Le framework va dire, ah bah tiens, il y a une requête HTTP qui est terminée, il y a probablement des données à rafraîchir. Il va regarder l'état de ton application, donc il va parcourir les composants que tu as dans ton appli, il va regarder s'il y a eu des modifications de leur état, et si jamais c'est le cas, bah du coup il va re-rendre dans le DOM les données de ce composant-là. Et donc ça c'est fait automatiquement pour toi. T'as rien besoin de faire là-dedans. T'as pas de mots-clés à dire dans ton application pour dire bah tiens là j'ai reçu des données, rafraîchis-toi. En fait ça se fait vraiment pour toi grâce à ce système de zones. Et en Angular 1, il y avait un fonctionnement similaire, ça se faisait automatiquement pour toi, mais c'était fait avec un principe de dirty checking, c'est-à-dire qu'il parcourait toute ton application et tout ce qui était dynamique, il l'exécutait à chaque fois, donc il avait une liste de tout ce qui était dynamique. Imagine que tu avais, je sais pas, 200 valeurs dans ta page dynamique, il exécutait ces 200 expressions pour voir leur résultat, il le refaisait une deuxième fois pour voir s'il avait toujours les mêmes résultats, puisque tu pouvais avoir un résultat qui dépendait d'un autre. Et il faisait ça tant qu'il n'avait pas réussi à stabiliser le modèle. Donc ils le faisaient jusqu'à 10 fois maximum, sinon tu avais une erreur. Mais donc en fait, à chaque fois que tu avais un événement, ils reparcouraient au moins 2 fois, voire 5-6 fois tout ton modèle. Ça semble un peu fou, mais en fait, ça marchait pas si mal en pratique, si ce n'est que ben, sur des gros volumes, tu pouvais avoir des problèmes. Et là, du coup, en Angular 2, le principe est un peu différent, puisque du coup, ils délèguent aux zones là, le principe de savoir que l'exécution est terminée, et donc du coup, ils peuvent mettre à jour ou pas le DOM. Voilà.
Mais du coup, ils vont faire un. Alors attends, je vais essayer de parser le truc. Déjà, les zones, ça découpe une appli en plusieurs morceaux potentiellement isolés. Vrai, faux?
Ton appli tourne dans une zone globale, et ensuite chaque action asynchrone en fait tourne dans une petite zone. Ce qui fait qu'il est aussi ça amène un truc aussi pas mal, c'est que il est capable de remonter la chaîne d'événements qui t'a amené à cette erreur-là. Je m'explique, c'est-à-dire que traditionnellement, quand tu as une erreur qui pète après une requête HTTP par exemple, tu sais que c'est la requête HTTP qui a amené cette erreur-là, tu sais pas nécessairement ce qui l'a déclenché. Là, avec leur système de zone, ils arrivent même à remonter, à dire bah, c'est quand l'utilisateur a cliqué sur tel truc que ça a déclenché l'erreur.
D'accord. Mais du coup, attends, est-ce que ça veut dire, par exemple, donc tu as une requête HTTP qui arrive, donc là ils disent, bon, bah, il y a peut-être des données à processer, d'une manière ou d'une autre, ils savent que la requête HTTP, elle avait été demandée par X, du coup X, il va potentiellement modifier certaines choses, et c'est en gros instrumenté, ils savent que X a modifié tel champ, tel champ, tel champ, et du coup le dirty checking, il est sur un sous-ensemble.
Et en fait, ils repassent quand même sur tout l'arbre de tes composants, mais par contre,
D'accord.
ils font qu'une seule passe maintenant dans le nouveau framework, parce
D'accord.
qu'il y a des changements internes. Et tu peux faire des optimisations pour dire, oui, effectivement, je veux qu'il n'y ait que ce sous-ensemble qui soit mis à jour, par exemple.
D'accord.
Mais ça, c'est des choses qui sont
Assez
encore.
avancé,
Ouais,
parce que
c'est.
normalement ça
Voilà,
marche.
exactement.
Ouais, en fait, c'est qu'il prend son temps, il dit, bon, je vais attendre un petit peu que ça stabilise tout seul avant de déclencher mon dirty checking en gros.
Ouais, c'est ça. En fait, ça faisait pareil en Angular 1, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une action qui était terminée, il relançait le dirty checking. Et là, c'est pareil, sauf qu'en fait, plutôt que de le faire faire au framework, il le délègue à ce qu'ils appellent les zones, là, qui sont capables de conserver un contexte un peu plus intelligent que ce qu'on avait avant. Bon, bref, je veux pas non plus rentrer trop dans les détails, mais c'est vrai que tu as un changement de paradigme entre les deux, qui n'est pas encore bien documenté. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui se soit penché là-dessus. Mais c'est ce qui va faire que les performances seront améliorées dans Angular 2.
D'accord. Mais le Virtual DOM, pour le coup, de React.js, il doit aussi aider dans ce truc-là, parce que tant que tu as quelque chose qui arrive, tu appliques tes opérations sur ton DOM virtuel, et comme le DOM virtuel, pour le coup, il le contrôle, ils peuvent dire, bah non, il n'y a que ce morceau qui a été mis à jour, et du coup, j'applique exactement ce qu'il faut sur le DOM, plutôt que faire tout un passage.
Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est un paradigme assez intéressant, ce qu'ils font dans React. La question leur a été posée plusieurs fois à l'équipe Google, et ils ont toujours dit que pour eux, c'était pas au framework de gérer ce diff de DOM là, et qu'ils préféreraient que ce soit les navigateurs qui le gèrent, et qu'ils étaient confiants qu'ils n'en avaient pas besoin dans Angular 2 avec leur système.
Bah, c'est vrai que dans l'absolu, tu dis, bon, bah, le navigateur, il devrait pouvoir faire ça. Il n'y a pas de raison, en fait. Il est censé faire ça interne, de manière interne pour optimiser. Et du coup, bref. Ça double juste la mémoire, mais bon. Qui s'en soucie.
Bah oui.
Ok. Et du coup, j'ai une question. Ah non, attends. D'abord, les tests. Donc, tu nous as expliqué un petit peu les tests en abstrait, mais là, donc, comment je fais pour tester?
Ouais, donc ben, mon workflow habituel, c'est j'ai besoin d'écrire un composant, donc je fais un fichier TypeScript qui contient la logique, je fais un fichier HTML qui contient le template, et dans le même dossier, tu fais un fichier qui contient le test de ton composant. Ce test-là, en fait, il va utiliser l'API Angular pour en fait ne charger que ce composant-là, et tu vas pouvoir faire des tests dessus, donc des tests vraiment au niveau de ta logique, c'est-à-dire tu vas pouvoir appeler une méthode pour vérifier qu'elle fait bien ce que tu attends. Puis tu peux carrément faire des tests sur quel est en Angular 2 assez facilement quel est le rendu du composant. Donc tu vas pouvoir dire OK, prends-moi mon composant utilisateur. Si jamais je lui passe tel nom et tel prénom, je m'attends à ce que dans le DOM j'ai tel élément qui soit apparu avec du coup telle valeur. Ça, tu peux le
D'accord.
faire donc unitairement sur tous tes composants. Tu peux aussi le faire sur des choses qui sont transverses, c'est-à-dire généralement ton application, il y a des composants et puis tu vas avoir des choses un peu plus transverses comme des services ou des trucs qu'on appelle des pipes qui permettent de transformer les données. Et donc ça aussi, tu peux les tester unitairement. Donc ça, c'est la première couche, et généralement, c'est celle où tu as le plus d'efforts qui va être fait par l'équipe, parce que c'est comme en Java, quoi. Hein. Vraiment, tu essayes d'avoir une couverture test unitaire qui soit assez importante. Tu peux avoir des métriques dessus, tu peux le faire passer dans ton sonar pour avoir des métriques de qualité, etc. Et après, si pardon, si tu sens que c'est nécessaire, tu peux faire des tests end-to-end, donc comme j'expliquais tout à l'heure, qui lancent vraiment ton application et qui déroulent des scénarios fonctionnels. C'est un peu plus des tests d'intégration. Et ceux-là, ils peuvent aller du niveau très simple, où du coup tu testes juste ton écran et ça appelle pas l'API HTTP derrière, ou tu peux aller un peu plus loin et faire des vrais tests d'intégration, où ça va vraiment faire un appel jusqu'à ton back-end, où tu as mis un faux jeu de données dans ta base de données, etc., pour faire un vrai test d'intégration.
D'accord. Et en parlant du back-end, du coup, une question intéressante, c'est où est-ce que je mets la frontière entre disons, le code métier qui est sur le front et le code métier qui est sur le back? Parce qu'on pourrait très bien imaginer dans une approche comme ça où le back, ça n'est vraiment qu'un accès à de la base de données. Ça serait l'extrême. Alors.
Ouais, ça serait envisageable, mais je pense que ce qui est assez raisonnable, c'est d'essayer de garder le maximum de logique métier, vraiment, enfin, tu vois, tout ce qui va vraiment être logique, calcul, requêtage, agrégation, tout ça, c'est ton back-end qui s'en occupe. Tout ce qui est sécurité aussi également, puisqu'en fait, dans l'idéal, tu veux essayer de partager ton back-end entre différents clients, donc tu peux avoir un client qui va être ton application Angular, un client qui serait une application Android, quelque chose comme ça. Et puis, globalement, la logique a pas tel la, ta logique métier, au sens métier, a pas tellement de sens à être dans ton navigateur. Dans ton navigateur, tu as plus envie d'avoir la logique au sens interaction utilisateur, vraiment plus qu'est-ce qui
D'accord.
se passe quand je clique là, etc. Tu peux avoir des fois des petites choses, donc typiquement, tu as de la validation de surface qui va être faite, donc tu pourras avoir des fois des choses qui sont peut-être un peu dupliquées entre un validateur que tu vas faire côté client et puis tu auras un peu le même côté serveur. Mais généralement, tu vas vraiment essayer de limiter ce genre de code dupliqué entre ton client et ton serveur.
D'accord, ok. Cool. L'outillage, bah, finalement, on l'a déjà un petit peu couvert. Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu veux rajouter. Visiblement, Angular, enfin, il s'intègre dans l'outillage assez classique du développeur JavaScript, enfin, d'application JavaScript, quoi.
Ouais,
C'est ce que
voilà,
je
sachant
comprends.
que bon, c'est un peu comme tout le reste de l'écosystème, hein. T'as plein d'alternatives possibles sur le build, sur la gestion des
Ouais.
dépendances, etc. Donc c'est pas
Ce que je
facile
veux dire,
d'avoir.
c'est qu'il l'impose pas, en fait. Il
Non,
dit pas,
voilà.
bah non, tu utilises Gulp ou alors t'existes
Voilà.
pas,
Donc tu peux
voilà.
vraiment faire ce que tu veux, c'est pas nécessairement lié à quelque chose. Par contre, en Angular 2, ils sont en train de faire un truc que je trouve assez intéressant. C'est ils vont fournir un outil en ligne de commande qui s'appelle Angular CLI. Qui te permet de générer ton squelette de projet avec déjà les tests qui sont configurés, ton build qui est configuré, ta gestion de dépendance qui est configurée, t'as même du coup tu peux générer des composants, dire tiens je veux un nouveau composant utilisateur et il te génère le squelette de ce composant-là. Et ça c'est un truc qu'ils n'ont pas inventé, ça existe déjà dans un autre projet qui s'appelle Ember.js, où il y a un outil comme ça qui est développé par la communauté et que les développeurs aiment beaucoup. Et donc du coup ils ont pris cette bonne idée et ils partagent du code d'ailleurs avec Ember CLI pour le réutiliser dans la communauté Angular. Et ça je pense que ça va être pas mal parce que faut voir quel investissement y met la team Google, mais probablement que ça va tirer un ensemble de bonnes pratiques. Puisque du coup, ils vont générer du code qui sera probablement, tu vois, pour démarrer ton composant, il sera déjà fait de façon à ce que ce soit un peu à l'état de l'art. Ton build, il sera commun du coup entre tes différents projets. Ça va amener un peu des conventions comme on avait pu voir avec, par exemple, quand on est passé à Maven, tu vois, par rapport à Ant, où on s'est retrouvé avec des structures de projet au niveau file system qui soient communes. Et ça, mine de rien, maintenant, quand tu vas voir un projet open source, si tu reconnais la structure des fichiers, tu gagnes un peu de temps pour t'y plonger dedans. Donc je pense qu'il y aura peut-être un ensemble de bonnes pratiques comme ça qui sera poussé directement par cet outil-là, qui ça va être assez intéressant.
D'accord. Après, moi, de mon expérience, Java, c'est aussi un mouvement enfin, de défensif intéressant parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que voilà, tous les gens qui font des librairies, donc elles sont massivement utilisées, c'est super. Et par contre, les développeurs, au final, ils veulent un truc qui leur construit le projet pour démarrer très très vite. Et donc, il y a des forges au sens général qui vont choisir une telle version de telle librairie et pas telle autre. Alors il y a des modules pour adapter ça, mais au final, en gros, si t'es dans la forge et intégré, ben c'est bon, t'es utilisé. Si t'es pas dedans, ben les gens, c'est un peu difficile de l'utiliser en dehors. Du coup, ils utilisent pas. Donc t'es un peu T'es un peu à la merci de la sélection du petit truc qui va aller faire son marché. Donc si tu peux le contrôler, c'est pas si mal.
Ouais, c'est vrai. Et pour le coup, t'as beaucoup d'alternatives, t'en as même presque trop, mais c'est-à-dire que généralement, t'as quand même plusieurs outils entre lesquels tu dois choisir pour ta tâche, quoi. Il y a peu de choses où t'es vraiment obligé d'utiliser telle solution, quoi.
Ouais. Alors juste pas un mot de la fin, mais un truc sur l'univers JavaScript. Alors comment est-ce qu'on survit quand bah ça bouge autant?
Ouais, c'est vrai que c'est pas facile en termes de veille, même pour des gens passionnés comme moi qui y passent beaucoup de temps, c'est difficile de toucher à tout. C'est une communauté que je trouve assez fantastique, quoi. Ça a des défauts, hein, bien sûr, parce qu'il y a plein de choses tout le temps qui émergent, mais c'est vrai que ça pousse les frameworks à s'améliorer, les idées sont pas mal partagées. C'est pas forcément la guerre comme on pourrait l'imaginer, les équipes travaillent quand même pas mal entre elles, entre les différents frameworks. Pour se tenir à jour, c'est bah, voilà, beaucoup de Twitter. Pas mal de podcasts anglophones, à ma connaissance en français, je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup sur le web ou sur JS en particulier. Par contre, tu as beaucoup de podcasts anglophones, assez bien faits.
C'est Antonio en 2017, si c'y met.
Ouais, c'est ce
Il
qu'il
fait
m'a
un
dit aussi, ouais.
podcast.
Ouais, mais sinon, c'est vrai que la communauté est quand même assez incroyable. Tu as un écosystème dans tous les frameworks qui est vraiment bouillonnant. Tu as plein de gens qui font de l'open source. C'est très très ouvert comme communauté. C'est aussi pas mal jeune, hein, c'est genre le projet Babel, là, il a été commencé par quelqu'un qui s'appelle Sébastien, qui était lycéen à l'époque, quoi. Et
Ouais.
maintenant, du coup, il a arrêté ses études, il bosse chez Facebook, il doit avoir 19 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est, enfin, tu vois, quand t'as un peu d'expérience dans le code, il y a des fois des choses qui sont un peu surprenantes. Tu vois des librairies open source qui sortent de nulle part, qui sont adoptées en 6 mois, alors qu'elles n'ont pas de documentation. C'est un peu fou.
Ouais.
Mais bon, ça, c'est comme tous les écosystèmes, ça va finir par atteindre une phase de maturation et de.
Et du coup, j'ai une question, c'est sur ton appli, mettons, bon, tu démarres une appli. Alors, je comprends que l'appli d'après, ben, la couche, enfin, la surface technique, elle soit relativement différente parce que tu t'es dit, bon, ben, maintenant, on va vers ça, etc. Mais sur une application, que tu as démarrée, que tu as développée, donc si ça se trouve, tu as même changé de framework, durant le temps de développement, parce que voilà. Mais une fois que voilà, elle est là, elle commence à être conséquente en taille. Donc du coup là, vous avez tendance à arrêter de changer les technologies et de dire bon bah c'est pas grave, on va supporter ce qu'il y a là, et puis bah, quand ça deviendra obsolète, on y pensera après. C'est quoi un peu le mantra?
Ouais, globalement, on change. Enfin, ça m'arrive pas de changer de framework en cours de développement. Parce que même si tu partais en Angular 1 là aujourd'hui, tu peux très bien. Enfin, le framework il est complet, il est maintenu. Il y a toujours des bug fixes qui sont réalisés dessus ou des optimisations de performance, mais globalement il est mature. Donc tu peux très bien partir dessus et te dire que tu vas rien changer à part faire les updates de sécurité et de performance qui vont t'envoyer. Donc globalement la stack elle ne bouge pas des masses. Dans mes projets.
Et d'accord. Et t'es jamais tombé sur un framework qui était justement plus maintenu. Je prends un exemple qui est pas vraiment vrai, mais Play, par exemple, il y a eu Play 1.1, 1.2, avec des modifications où il fallait faire un peu attention. Puis après, ils sont partis vers Play 2, qui était quand même, ben, en l'occurrence, fondamentalement différent. Et ben, je me souviens d'un cas de sécurité assez important où ils ont fait l'effort de backporter, mais j'imagine qu'il y avait d'autres choses mineures, et au final, ben ça s'est pas voilà quoi. Quand dans ton appli Play 1 point quelque chose, ben tu fais tout seul quoi.
Ouais, c'est vrai. Après, Angular étant quand même relativement important et soutenu par Google, j'ai bon espoir que la maintenance de Angular 1 continue un moment. Mais c'est vrai que la majorité de l'équipe est quand même partie sur la version 2. Mais ils ont pris des nouvelles personnes pour bosser sur Angular 1. Le rythme est devenu relativement lent et ils sont plus en mode essayer de fournir un chemin de migration vers la version 2 qu'autre chose.
Ouais.
Mais sinon, de
Mais il y a
façon
des gens en tout cas.
générale, pardon?
Mais il y a des gens en tout cas.
Il y a des gens, voilà. Il y a des gens, je ne sais pas pour combien de temps, c'est toujours difficile de se pronostiquer là-dessus.
Ouais.
Mais bon, ça me semblerait. Enfin, si tu as une application aujourd'hui en Angular 1, j'en ai plusieurs, ça ne me fait pas trop de soucis pour leur futur.
D'accord. OK. D'autres exemples, parce que là on parle d'Angular, mais d'autres frameworks où tu t'es un peu mordu les doigts.
Non, j'ai rien qui me vient en tête. J'ai rien qui me vient en tête là.
D'accord. Cool. Bon, on va pouvoir parler d'SQDoctor. Donc, on a 5 minutes, on va dire. Donc, toi, tu as écrit ton livre Donc, il est généré, comme tu disais, en EPUB, PDF, MOBI, enfin, tout ce qui existe. Tu as décidé d'utiliser un format markup, qui est AsciiDoctor en l'occurrence, qui est en gros du markdown, mais avec des choses plus scalables quand on écrit de manière significative. C'est quoi ton expérience du coup? Déjà, tu regrettes pas?
Non, non, non. J'avais déjà fait ça pour le premier. Et là, pour le deuxième, j'ai aussi fait ça en poussant l'automatisation un peu plus loin. Donc, avec, comme je disais tout à l'heure, les bouts de code qui sont inclus automatiquement, ce genre de choses. Et c'est vraiment une bonne expérience. Et du coup, je trouve que c'est intéressant, même au-delà de l'écriture d'un bouquin. Tu peux facilement écrire de la documentation technique avec ce genre d'outils et avoir un rendu. Tu peux générer du HTML aussi, donc tu peux avoir un rendu assez propre, lisible, où tu vas pouvoir générer les bouts de code directement grâce à des tests unitaires que tu as. C'est d'ailleurs l'approche que prend un des projets Spring, là, qui s'appelle Spring REST Doc, où tu vas générer directement ta documentation grâce à des tests unitaires et une API spéciale pour documenter ton API REST côté serveur. Et c'est vrai que le projet, il n'est pas à l'abri de quelques bugs, hein, il est principalement maintenu par Dan Allen, qui est un de tes anciens collègues, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il est tout seul dessus, avec une communauté qui l'aide un peu sur différents projets, mais c'est vraiment quand même assez intéressant à utiliser. Et puis moi qui n'y connais rien en termes de génération tu vois, de PDF, on sait tous que c'est un peu l'enfer, qu'il faut passer par des docbooks au milieu, des trucs un peu étranges. Et là, ça le génère pour toi. Donc, tu écris vraiment que ton markdown. Les IDE ont un mode preview qui te permet de voir en live quand tu écris si ça se passe bien. Puis après, tu lances
Ah
ta
ouais,
génération.
c'est quoi IntelliJ?
Ouais, IntelliJ, il a un plugin
D'accord.
dans Atom ou Sublime Text, tu as aussi un plugin.
D'accord.
Donc, il faut pas que.
Bon, sinon j'utilise moi Chrome avec le rendu live et donc je fais un drag and drop de mon fichier. Éventuellement, il est écouté pour se rafraîchir automatiquement. Et puis de l'autre côté, j'ai mon éditeur.
Voilà, ouais, c'est une autre solution. C'est un peu ce que j'ai tendance à faire. J'écris et puis de temps en temps, du coup, je rafraîchis dans le navigateur pour voir ce qui se
Ouais.
passe. Mais c'est vrai que c'est super pratique. Et puis le fait, du coup, d'écrire dans un format Markdown comme ça et pas dans un fichier,
Markup.
ouais, Markup.
Markdown, c'est un
Oui,
spécial.
exactement. Et pas dans un fichier Word ou quelque chose comme ça. C'est que du coup, tout le fonctionnement qu'on avait, c'est que bah, j'écrivais un chapitre, je faisais une pull request sur GitHub, et mes collègues Jean-Baptiste, Cyril et Agnès, du coup, ça se traînait à tout relire, à me poser des questions. Et donc, on avait vraiment un fonctionnement proche de ce
Proche
que
du code,
tu,
ouais.
voilà, proche de ce que tu
Ouais.
ferais avec du code. J'enrichissais la pull request jusqu'à ce qu'on soit satisfait, et là, on mergeait dans le bouquin, etc.
Et la génération EPUB,
Ouais.
MOBI, tout ça, c'était assez correct. Parce que évidemment, le truc, donc le texte pur en général, ça va. Quand tu mets des choses bizarres, genre des tables ou voire du code qui est un peu long en largeur surtout, bon bah des fois t'as pas forcément le rendu que tu veux. T'as eu des mauvaises expériences comme ça ou ça allait?
Ouais, je t'avoue que du coup j'essaye d'éviter les trucs qui sont trop compliqués, genre des fois t'as
Ouais.
envie de mettre deux images côte à côte absolument et puis tu te rends compte que ça marche pas comme tu voudrais, donc tu finis par les mettre l'une en dessous de l'autre et tu t'en satisfais.
Ouais.
Donc voilà, il faut peut-être faire quelques concessions,
Sacrifice, ouais.
mais dans l'ensemble non, ça fait quand même super bon boulot
Oui, c'est
sur
jamais
tous les formats,
pixel
quoi.
perfect, mais
Non,
par contre,
c'est
le flux de
compliqué.
travail est très,
Ouais.
très
Surtout
agréable.
sur les liseuses, il y a quand même beaucoup de liseuses qui existent sur le marché.
Ouais.
Et donc du coup, c'est difficile de garantir. Tu vois, on a eu des petits bugs de couleur de police, par exemple, sur certains devices ou des choses comme ça.
D'accord.
Mais bon, voilà. À part quelques, vraiment, c'est minime par rapport au confort que ça t'amène.
Et tu utilises la chaîne d'édition classique ou tu t'es customisé comment tu génères, choses comme ça?
Ouais, c'est custom. J'ai un bête script qui appelle AsciiDoctor 4 fois, une fois par format. Enfin, 8 fois, parce que du coup, le
Ouais.
bouquin, on l'a écrit en anglais et en français. Donc, il est généré.
Tu fais quoi? T'écris tout dans une langue et après tu traduis ou tu fais
Ouais, c'est
un...
ça. J'écris en anglais, en fait. Et c'est Cyril qui, dans un grand courage, à chaque fois qu'une pull request émergeait, fait la traduction.
Non, ça va. Séparer un peu le travail parce que
Ouais,
c'est
ça
chaud
va.
sinon.
Ouais. Non, non, c'est cool. Puis du coup, là, ça fait une semaine qu'on a sorti le bouquin. Donc pareil, c'est le même fonctionnement, c'est prix libre, etc. Et on en est à un peu plus de 600 exemplaires qui ont été vendus. Donc on est très content. Et puis, t'en as à peu près la moitié en France et la moitié à l'étranger, quoi, globalement.
D'accord. Bah là, vous avez une opportunité intéressante. Tu dois être à peu près le premier bouquin sur la techno. Il y a peut-être une explosion qui va arriver naturellement.
Ouais, c'est ce qu'on se dit. Et puis, globalement, je suis en train de travailler sur tout un pack d'exercices qui ira avec le livre.
D'accord.
Donc, je pense qu'il y aura un package assez sympa au final. Et c'est vrai que là, pour l'instant, t'as pas beaucoup de ressources. Même la doc officielle, il y a certaines parties où le bouquin est plus avancé que la documentation officielle, tu vois. Donc, je pense que c'est une ressource intéressante. J'espère,
D'accord.
en tout cas.
Ouais. Elle est partagée ta chaîne ASCII Doctor ou...
Non, elle est pas ouverte, mais elle est tellement simple que je sais même pas
D'accord.
si
Si
ça
c'est
vaudrait le
juste
coup.
le truc de base, ok, j'y
Ouais, non,
serai.
c'est vraiment que c'est quatre lignes de commande avec une option à chaque fois, tu vois, c'est sortie HTML, sortie EPUB, etc. Mais sinon.
Ouais, d'accord. Ouais, mais après, t'as toujours... alors, pas le bouquin en lui-même, mais t'as toujours il faut le header, je sais pas quoi, pour le hip-hop, sinon ça marche pas trop bien, ou... Non,
Ouais,
t'as... Ouais.
en fait, la mise en place est quand même pas super coûteuse. Il faut aussi lire la doc une fois, mais après.
Ouais,
Ça roule tout
ok.
seul, quoi.
Ça marche. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour cette interview.
Merci à toi.
Et puis j'espère que ça a plu aux gens qui l'écouteront, enfin que ça leur plaira en tout cas, parce qu'on est dans le futur. Et puis, bah oui, t'as pas donné d'ailleurs l'URL du bouquin.
Ouais, bah ça se trouve sur le site de Ninja Squad. T'as un sous-domaine, c'est books.ninja-squad.com. Et il y a tout ce qu'il faut à cet endroit-là.
Super, bah merci et puis bonne fin de journée et bon week-end à toi.
Merci, salut.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthem.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.